Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Appel sur l'actualité, l'émission qui vous fait décrocher le téléphone. Dans une demi-heure, on lancera le débat sur le blocage autour des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Le leader d'opposition RD congolais est décédé il y a 6 mois maintenant et sa dépouille est toujours conservée dans une morgue de Bruxelles. Sa veuve lance un appel. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation au 33 9 693 693 70. Avant cela, vos questions sur l'actualité, nos experts et nos journalistes pour vous répondre. Aujourd'hui, on parlera de la situation à Bangassou, en Centrafrique, des relations entre l'Iran et l'Irak, du scandale Rio Tinto, mais d'abord du Venezuela avec notre premier auditeur. C'est Eric qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Eric.
Bonjour Marie. Bonjour aux auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu Eric. On écoute donc vos questions sur la situation au Venezuela.
L'opposition vénézuélienne appelle à une nouvelle mobilisation au lendemain de l'élection très contestée de l'Assemblée constituante et de la mort de 15 nouvelles personnes. Alors, comment expliquer la mobilisation grandissante des opposants malgré les risques observés? Quelle est la position de l'armée face à ces nouvelles mobilisations? Et l'armée pourrait-elle désavouer le projet de constituante comme l'a demandé l'opposant Leopoldo López?
Merci beaucoup Eric pour vos questions. C'est Gaspar Estrada qui va vous répondre. Bonjour Monsieur Estrada.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, donc de Sciences Po Paris, spécialiste de l'Amérique latine. Eric parle évidemment d'un nouvel appel à la mobilisation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une mobilisation grandissante chez les opposants? Aujourd'hui, c'est un peu la guerre des chiffres. Hein. Le pouvoir assure qu'il y a eu plus de votants hier que pour le référendum symbolique de l'opposition. L'opposition, elle estime que 90% des Vénézuéliens ne sont pas allés voter. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de cette mobilisation donc de la population qui serait opposée au président Maduro?
Bon, je pense que en effet, vous avez raison de le dire, il y a une guerre des chiffres entre le gouvernement et l'opposition pour savoir qui a réussi à mobiliser davantage de personnes entre la consultation d'il y a quelques semaines et donc la tenue de cette élection hier. Ce qui est clair, c'est que compte tenu de la situation catastrophique de l'économie au Venezuela, des problèmes et de la pénurie, y compris alimentaire, qui peut exister dans l'acheminement des biens de première nécessité, il y a une très grande insatisfaction des Vénézuéliens vis-à-vis du gouvernement. Il y a une polarisation politique qui est très importante et qui, je le crains, va se poursuivre dans les semaines à venir.
On peut imaginer donc que l'appel à la mobilisation aujourd'hui de l'opposition va être entendu, et malgré les risques, nous disait Eric, encore une dizaine de morts, on en est à plus de 120 depuis le début du mouvement.
Il peut y avoir une hausse de la mobilisation, peut-être non, mais en tout état de cause, ce qui est à mon sens le plus important, c'est que cette assemblée constituante en soi, elle ne résout rien des problèmes politiques, économiques du pays, sachant qu'aujourd'hui, le FMI par exemple estime que l'inflation en 2017 atteindra 1700%, et qu'il faut donc prendre des mesures qui soient beaucoup plus importante pour pouvoir sortir le pays de l'ornière et surtout d'entamer un dialogue entre l'opposition, le gouvernement et aussi parler de l'armée qui est aussi au centre du jeu dans cette crise.
Alors c'était l'autre question d'Eric hein, qui se demandait si l'armée pouvait entendre l'appel de Leopoldo López, un appel qui a été lancé en fin de semaine dernière à l'armée, appelé à ne plus soutenir Maduro. Est-ce qu'il y a eu une réponse de sa part?
Alors jusqu'à présent non, jusqu'à présent l'armée a été très loyale vis-à-vis du gouvernement, d'autant plus que l'armée s'est paradoxalement trouvée confortée dans son rôle et même a pu exercer des fonctions de plus en plus politiques, également exercer un contrôle dans l'économie du pays. Donc paradoxalement, c'est l'armée qui a été la grande gagnante de cet affaiblissement progressif du président Maduro. La question de savoir, c'est jusqu'à quand l'armée continuera de soutenir le gouvernement, c'est une vraie question, mais pour le moment, l'armée a été très mutique à ce sujet.
Il y a eu des condamnations, des violences, mais aussi de ce vote, de ce maintien de l'élection des membres de l'Assemblée constituante, plusieurs pays d'Amérique latine et les États-Unis aussi, qui ont menacé de sanctions et même qui ont imposé des sanctions à une dizaine de personnalités. Est-ce que ça peut avoir aussi un poids sur les décisions futures du président Maduro ?
Je pense que les décisions des États-Unis sont contre-productives dans le sens où elles renforcent l'unité de la garde prétorienne du président Maduro et que, en revanche, elles pourraient pénaliser le quotidien des Vénézuéliens. En revanche, je pense que les actions menées par les pays latino-américains traduisent bien cet état d'esprit, cette préoccupation qui existe dans la région, notamment dans la zone andine, et je pense notamment à la Colombie, qui voit tous les jours grossir des flux migratoires de Vénézuéliens en Colombie, qui fuient en quelque sorte le pays, compte tenu de cet état catastrophique de l'économie du Venezuela. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a cet activisme diplomatique des pays latino-américains. Le 8 août prochain, il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères de la région à Lima, où sera discuté notamment un projet de résolution concernant justement les évolutions du Venezuela.
Merci beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir été en ligne avec nous et d'avoir répondu aux questions de notre auditeur Eric, qui nous appelait de Brazzaville, au Congo. On va accueillir maintenant Simon, qui nous appelle de Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Simon.
Bonjour Marie.
Simon, vous aviez des questions à nous poser sur la situation à Bangassou. Alors c'est dans le centre de la Centrafrique, à 700 km à l'est de Bangui. On vous écoute.
Ok Marie, je commencerai par dire bonjour à tout le peuple de la République centrafricaine. La crise en République centrafricaine s'enlise chaque jour un peu plus. Il vient d'avoir un regain de tension dans la région de Bangassou, comme vous venez de le dire, et la MONUSCO a vivement réagi. À ce sujet, je voudrais savoir, comment comprendre, Marie, que les musulmans soient la cible privilégiée des groupes d'autodéfense à Bangassou? La deuxième question, Marie, c'est qu'un contingent de casques bleus bangladais est annoncé pour les prochains jours. Pourquoi avoir spécialement fait appel à ce contingent bangladais? Et quel est le petit plus que ce contingent peut apporter dans le processus de pacification de la République centrafricaine?
Alors effectivement Simon, il y a eu beaucoup de tueries depuis le début de l'année dans cette ville de Bangassou, dont une qui a coûté la vie à 3 casques bleus marocains il y a un peu plus d'une semaine. Vous parliez de la MONUSCO, il s'agit de la MINUSCA en fait, hein, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Et du coup, la MINUSCA a décidé donc de l'envoi de forces spéciales dans cette ville. Nous sommes en ligne aussi avec Edouard Dropsy, notre correspondant à Bangui. Bonjour Edouard.
Bonjour Marie, bonjour Simon.
Alors comment on peut expliquer effectivement que ce sont les populations musulmanes qui soient les plus visées à Bangassou?
Alors ça c'est un vrai point d'interrogation effectivement en Centrafrique. À Bangassou, ça a toujours été préservé par les tensions communautaires, même au plus fort de la crise. C'est même une des rares villes où il y avait un préfet, un maire, un centre pénitentiaire, enfin un semblant d'État. Donc ça du coup c'est une vraie question. Et c'est surtout que cette situation c'était avant le mois de mai, avant qu'il y ait plusieurs centaines de groupes d'autodéfense qui arrivent de la brousse lourdement armés pour s'en prendre aux populations musulmanes. Alors, l'autre phénomène étrange, c'est que habituellement, ces groupes d'autodéfense, ils viennent s'attaquer aux populations musulmanes dans des villes qui sont contrôlées par la FEDECA. Alors, je pense à Kagamandoro, qui est dans le nord, à Bria, qui sont contrôlées par le MPC, par le FPRC. Et donc ça, souvent, ça leur permet de justifier le fait qu'ils s'attaquent à des civils, parce que c'est contrôlé par des FEDECA à majorité musulmane. Mais à Bangassou, pour l'instant, il n'y avait pas réellement de raison.
C'est-à-dire, Edouard, qu'il n'y avait pas vraiment de force armée musulmane, mais juste une population musulmane qui, là, a été visée, a priori?
Exactement, c'est des commerçants, c'est des gens qui venaient, qui habitaient à Bangassou, et il y a toujours une espèce de cohésion sociale à Bangassou. Alors en revanche, ce qu'il faut bien souligner, c'est que en Centrafrique, il continue d'y avoir un vrai courant islamophobe dans toutes les strates de la société, dans la rue, à différents échelons d'administration, chez certains militaires. Au mois de mai, lorsque il y a eu le premier massacre où il y a eu une centaine de personnes qui ont été tuées, il y avait des musulmans qui étaient réfugiés à la mosquée, qui se faisaient tirer dessus par des snipers, il y a également eu le silence des autorités. À l'époque, le président Touadéra était en voyage en Israël. Il n'a fait aucune déclaration, hormis à sa descente de l'avion plusieurs jours après. Donc ça, ça a été vertement critiqué. Et il y a également, alors ça c'est sur un point de vue de politique un peu plus global, beaucoup à Bangui pointe aussi également la main du président Bozizé, qui est toujours en exil en Ouganda, qui est frappé par des sanctions internationales et qui tirerait les ficelles. Donc ce serait un moyen pour l'ancien président Bozizé de dire « Levez les sanctions contre moi, sinon je peux faire brûler la brousse où je veux ». Quand je veux.
Alors Edouard, on en vient à la deuxième partie des questions de Simon sur ce contingent bangladais qui va arriver en renfort donc à Bangassou. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à la situation ?
Ah bah alors, ce qu'il peut apporter de plus, c'est que pour l'instant, Bangassou, c'est uniquement contrôlé par par le contingent marocain qui est clairement débordé. Ils sont assez réactifs, contrairement à ce qu'on dit, et ils ont une double casquette en ce moment. Donc ils ont leur mandat de protection des populations et ils font également aussi du travail humanitaire, à savoir ils vont notamment ravitailler les populations en eau. Ça, normalement, ça c'est le travail des ONG. De ravitailler les populations déplacées en eau. Seulement, ces mêmes ONG, elles se font constamment menacer. Donc du coup, c'est les Marocains qui s'occupent de ça. D'ailleurs, la semaine dernière, les trois casques bleus marocains qui sont fait tuer, c'est parce qu'ils ravitaillaient les déplacés en eau. Donc le contingent bangladais, c'est des forces spéciales. Ils ont l'habitude de ce genre de terrain. On les avait vus à Bambari, à Ipi, en février dernier, lorsqu'il y avait des grands combats entre différentes factions de l'ex-Séléka et que tout le monde pensait que Bambari allait être un bain de sang. Ils ont réussi notamment à contenir en partie ce massacre qui aurait dû avoir lieu. Et clairement, eux, là, leur travail, là, ça va être de contrôler la ville. Et pour ça, ils vont être également appuyés par les casques bleus du contingent gabonais et par des membres de la police rwandaise. Et à l'heure où je vous parle, là, en ce moment, il y a Jean-Pierre Lacroix, c'est le patron des casques bleus à New York, qui est actuellement à Bangui. Il a profité d'une tournée régionale pour venir s'entretenir avec le président et différents responsables politiques. Du coup, justement, effectivement aussi, pour discuter de cette situation sécuritaire et éventuellement peut-être d'augmenter peut-être les capacités des casques bleus en Centrafrique, parce que c'est un territoire extrêmement vaste, très peu dense, et ce qui fait que y a des trous un peu partout dans le pays où tout le monde peut commettre des massacres un peu comme ils veulent.
Merci beaucoup, Edouard Dropsy. Vous étiez donc en ligne de Bangui pour répondre aux questions de Simon à Yaoundé. Il est 8h23 à Bamako et en temps universel Bamako où se trouve Blaise. Bonjour Blaise.
Bonjour Marie.
Alors vous Blaise, vous vous intéressez à un accord signé récemment entre l'Iran et l'Irak?
Tout à fait Marie. En effet, l'Iran et l'Irak ont signé un accord visant à renforcer leur coopération militaire pour lutter contre le terrorisme. Du coup Marie, je voudrais savoir à quoi consiste concrètement cet accord et quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour la réussite d'une telle coopération.
Blaise, c'est Karim Pakzad, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, qui va vous répondre. Bonjour Monsieur Pakzad.
Oui, bonjour.
Alors cet accord qui visait à renforcer la coopération militaire entre l'Iran et l'Irak, il a été signé il y a une semaine. Alors en quoi consiste-t-il concrètement? C'est la question de notre auditeur Blaise.
Concrètement, je pense qu'il s'agit plutôt d'officialiser des coopérations militaires ou si vous voulez de l'aide militaire iranienne à l'Irak qui existait auparavant. On le sait que l'Iran a aidé militairement l'Irak depuis la chute de Saddam Hussein. Et même, je peux dire qu'avant, parce que des organisations de défense populaire qu'on appelle ici des milices chiites étaient, avant même la chute de Saddam Hussein, aidées militairement par l'Iran pour lutter contre Saddam Hussein. Donc l'aide militaire iranienne est très ancienne à l'Irak. Donc, cette fois-ci, c'est une officialisation de cette aide.
Quels sont les intérêts de l'Iran dans ce conflit en Irak?
Alors, l'intérêt de l'Iran en Irak, c'est vital. C'est vital, d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, l'Irak, c'est, à part l'Iran, c'est le seul pays chiite dans le monde. En plus, c'est un pays chiite arabe. Et l'Iran, qui se trouve en fait dans une région où il est entouré, si vous voulez, par des pays et des régimes arabes sunnites, parfois wahhabites comme l'Arabie Saoudite, se sent d'une façon ou de l'autre encerclé. Et donc les coopérations avec l'Irak et une relation de ce genre permet à l'Iran de détendre son influence. Ensuite, bon, il y a d'autres éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans sa rivalité avec l'Arabie Saoudite, qui se manifeste justement en Irak, qui se manifeste justement en Syrie, au Liban, etc., le renforcement des relations avec l'Irak permet à l'Iran de jouer le rôle d'une puissance régionale et de cela faire comprendre à la communauté internationale, notamment aux États-Unis, que l'Iran n'est pas seul, que l'Iran a des amis dans cette région qu'il faut compter avec lui.
Et on comprend donc que cet accord qu'évoquait Blaise est une concrétisation de cette alliance entre l'Iran et l'Irak. Merci beaucoup Monsieur Pakzad. On va accueillir un dernier auditeur, c'est Ménard à Douala. Bonjour Ménard.
Oui, bonsoir.
Vous avez des questions, vous, Ménard, sur l'affaire Rio Tinto en Guinée. On vous écoute.
Tout à fait, madame. Récemment, l'office de fraude britannique a ouvert une enquête sur le gemmier Tinto pour corruption. Cette enquête concerne un projet d'extraction de minerais de fer en Guinée. À cela, je veux savoir quelles peuvent être les répercussions de l'enquête sur le déroulement du projet.
Une enquête donc pour corruption à propos donc du géant minier Rio Tinto présent en Guinée. Bonjour Claire Fage.
Bonjour à tous.
Alors quelles peuvent être donc les répercussions de cette enquête sur le déroulement du projet d'extraction énorme en Guinée?
Oui, bien tout simplement des retards à exploiter Simandou, sans doute les premières réserves de minerais de fer au monde, 2,5 milliards de tonnes, potentiellement 100 millions de tonnes par an, car les affaires judiciaires liées à Simandou sont à l'échelle du gisement guinéen d'ampleur mondiale. Déjà, un arbitrage en cours à Washington entre l'ancien actionnaire israélien, PSGR, et l'État guinéen. On attend une décision peut-être cet automne. Et une enquête ouverte en Australie et désormais donc en Grande-Bretagne sur Rio Tinto, l'ancien opérateur de Simandou. Rio Tinto étant un groupe anglo-australien. Il s'agit d'éclaircir les conditions dans lesquelles a été négocié l'accord transactionnel entre Rio Tinto et l'État guinéen en avril 2011, quelques mois après l'élection d'Alpha Condé à la présidence de la Guinée. Rio Tinto est soupçonné d'avoir versé une commission de 10,5 millions d'euros à un conseiller du chef de l'État guinéen en matière minière, le banquier français François de Combrette, en échange d'avantages, notamment fiscaux, en tout cas d'un traitement de faveur par rapport aux autres conventions minières. Rio Tinto a reconnu un échange de mails douteux. Il s'est dit prêt à collaborer avec la justice britannique et australienne, mais tant que des affaires judiciaires sont en cours autour de Simandou, cela hypothèque les changements de gouvernance du gisement et sa mise en valeur. On sait que les Chinois sont en cours de négo avec l'État guinéen pour acquérir la totalité des blocs, mais ils ne sont pas pressés, étant donné la conjoncture économique mondiale. Ces affaires donnent aux Chinois l'excuse pour faire traîner les choses, sans pour autant renoncer à ce minerai de fer de haute teneur pour l'avenir.
En quelques mots, Claire, est-ce que cette affaire peut fragiliser certains membres du gouvernement guinéen?
C'est difficile de le dire. Les membres actuels du gouvernement ne sont plus les mêmes. Le ministre des Mines de l'époque, c'était Mohamed Lemine Fofana. Il aurait disparu des radars. Un de ses successeurs était Karfala Yansané. Autre personnage central de ces négociations avec Rio Tinto, Sadou Nimaga, alors conseiller juridique du président Alpha Condé. Il est aujourd'hui secrétaire général du ministère des Mines. En tout état de cause, l'enquête interrogera tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à ces négos au sein de Rio et tous les partenaires, a déjà annoncé la justice britannique.
Merci Claire Fage. Vous avez donc répondu aux questions de notre auditeur de Douala, Ménard. Appel sur l'actualité revient juste après le prochain journal.